Au bout d'un instant, naturellement, ce monsieur se sentait un peu mal avec ses cigares qui étaient trop forts. Il venait blanc et cherchait un buisson ou un gros arbre pour se cacher. Le roi, naturellement, attendait un moment, il savait, ce pauvre mettait à vomir. Alors le roi venait vers lui et dit, mais comment, mon ami, vous avez le mal de mer? Mais, comprenez, la terre tourne, il disait toujours. Inutile de dire qu'ils étaient guéris, qu'ils n'en acceptaient plus.
C'est ça. Voilà un souvenir de cigare. Vous faisiez allusion tout à l'heure à Churchill. Évidemment, l'anecdote est aussi valable pour lui, parce que je crois qu'il a été aussi opéré de l'appendicite et que deux jours après, il fumait gaillardement le cigare.
C'est un fumeur inventaire. Encore peu de temps avant sa mort, il fumait encore droit et droit.
Oui. Est-ce que vous avez un autre souvenir?
Eh bien, il y en a tellement. Vous savez que justement, vous me prenez un peu au dépourvu, je ne peux pas vous le dire.
Mais quand avez-vous quitté la cour d'Angleterre?
Quitté l'Angleterre en 1903, au mois de juillet, lors de la naissance du prince héritier de Norvège. À ce moment-là, il a été baptisé Alexandre, en souvenir de sa grand-mère qui était la reine Alexandra.
C'est ça.
C'était Alexandre du Danemark.
Et à partir de ce moment-là, vous n'avez pas revu le roi Édouard?
Oh que oui, je l'ai vu à Copenhague. Mm-hmm. Il venait chaque année au mois de... les premiers jours d'octobre, lors de la fête du vieux roi Christian, qui était le papa de l'Europe, comme on l'appelait, vu que ses filles avaient toutes marié des souverains à l'étranger. Et il avait toujours les grandes réunions de famille. Alors le roi Édouard venait toujours pour se joindre à ces réunions de famille.
C'est ça.
Et alors on rentrait, d'habitude, alors la reine Alexandra et princesse Victoria rentraient en Angleterre à ce moment-là, avec lui par train spéciaux.
Il y a eu de très brillantes réceptions.
Oui, il y avait des brillantes
réceptions. Tous les souverains d'Europe assistaient à
Oui, il y a eu des dîners, n'est-ce pas, où j'ai eu l'honneur de servir aussi, où se trouvaient cinq reines, des impératrices, des rois, n'est-ce pas. Chose assez rare de les trouver tous unis dans une table, n'est-ce pas.
Évidemment, d'ailleurs, vous avez des photos qui en témoignent abondamment. Et pourriez-vous nous décrire un tout petit peu la vie à la cour de Danemark?
Eh bien, la cour à Danemark pourrait être une petite cour, était assez encore aristocratique et gardait les vieux usages. Tandis que la cour d'Angleterre, qui est pourtant une plus grande cour, n'est-ce pas, les princes et les princesses sont beaucoup plus libres. Exemple, pour vous citer un exemple, la famille sortait l'après-midi faire des achats dans des magasins, eh bien il y avait toujours un cocher et un laquais habillés en noir. Et si vous n'aviez pas su qui c'était un pris pour une voiture aristocrate, n'est-ce pas, d'un lord ou comme ça. Mais au Danemark, il fallait que le cocher ait la tunique rouge, le tube avec l'aigrette rouge de côté, et le valet de même. Alors on savait tout de suite qu'il y avait une personne royale qui était dans ce magasin. Tout de suite, ça meutait la foule, naturellement. Et si la reine Maud sortait, par exemple, elle était princesse Charles à ce moment-là, si la princesse Charles faisait une promenade à cheval, elle était obligée d'avoir un groom habillé avec l'étiquette de la cour rouge. C'est ce qui l'a un peu choqué, vu qu'elle était plus libre, n'est-ce pas, dans la libre Angleterre. C'est très drôle pour un petit peu, c'était des vieux usages que le vieux papa voulait garder encore, et les princes étaient obligés de d'accepter ça. C'est.
Oui, évidemment, ça n'était pas encore très démocratique.
C'était démocratique d'un côté, mais c'était un style de cour qui devait rester.
Oui. Oui. D'ailleurs, les usages ont quelque peu changé, évolué. Oh,
ça a évolué beaucoup, n'est-ce pas?
Le roi Christian, par exemple, s'est promené tout à fait librement.
Ah, librement, il se promenait toujours. Il se promenait librement. Mais si c'était à cheval ou en voiture, il fallait la livrée de la cour.
Et je pense qu'au moment où vous étiez à Copenhague, des événements très importants se préparaient en Suède et en Norvège. Et j'aimerais vous demander ce qui s'est passé à ce moment-là et comment vous avez été mêlé à ces événements.
Eh bien, en 1905... La séparation de la Norvège, la Suède et la Norvège est arrivée à un point culminant, même très grave. À un moment, nous avons bien cru que la guerre allait éclater. C'était plutôt une guerre, n'est-ce pas, un peu des fratricides, vu que c'était des peuples scandinaves et assez unis. Mais les Norvégiens voulaient absolument ravoir leur indépendance, qu'ils n'avaient perdue depuis des centaines d'années, et devenir libres, plus comme on l'appelait à l'école, on apprenait toujours la Suède et la Norvège.
Oui.
Ils voulaient être libres. N'est-ce pas, ils étaient un petit peu, comment on peut dire, chatouillés de voir toujours que toutes les places de ministres, de consuls et les places importantes étaient toujours données à des Suédois. Et il y a des frictions un petit peu, Et ils ont voulu, il est arrivé deux, trois petites questions qui a fait que ça s'est rompu. Et il y avait un petit noyau, il y avait des armateurs, des personnes influentes et des intellectuels qui ont formé un petit noyau qui voulait de nouveau avoir la monarchie. Il y avait aussi un petit mouvement républicain. Entre autres, il y avait le célèbre écrivain norvégien Bjørn Bjørnson. Et quand on est venu demander... Il y avait plusieurs intrigues d'ailleurs. Le tsar aurait bien voulu mettre un de ses fils, son frère, qui venait trop populaire. Et comme il avait reçu un jeune fils, le tsarevitch, il voulait éviter que le grand-duc Michel prenne sa place et vienne trop populaire. Alors il voulait proposer de mettre son frère sur le trône de Norvège. L'empereur d'Allemagne voulait mettre un fils. Et les Suédois ne voulaient pas lâcher la branche Bernadotte, ils voulaient mettre Prince Charles de Suède. Mais par rapport à ce que le prince Charles de Danemark, sa mère étant une princesse norvégienne et danoise, c'était lui qui a eu la faveur. Quand ces messieurs sont venus pour lui demander, il a voulu accepter, mais à une seule condition, c'est qu'il soit fait un plébiscite. Il ne voulait pas venir comme un chef d'un pays par un parti, il voulait venir par le peuple, ce qui l'a rendu énormément populaire. Et le 13 août 1905 a eu la votation, qui a été pour 465 ou 485, je ne me rappelle plus, de non, donc aux républicains, contre des millions de oui. Donc, inutile de dire qu'après, plusieurs de ces farouches républicains sont venus plus royalistes que le roi. C'est ce qui arrive souvent, n'est-ce pas?
Oui, on ne pouvait pas rêver un plus beau plébiscite pour le roi.
Non, c'est plébiscite. Alors, n'est-ce pas, il y a eu une agitation formidable quand nous avons dû partir. Les Suédois, n'est-ce pas, ont été un peu blessés que ça a pu s'arranger si facilement. Et avec la diplomatie du vieux roi de Danemark et un peu d'Édouard VII, tout s'est arrangé au mieux.
Et alors, vous avez suivi immédiatement le roi? Est-ce que vous êtes parti en même
temps que lui? Je suis parti 48 heures avant lui. J'ai quitté Copenhague 48 heures avant lui pour arriver à Christiania, à ce moment, ça s'appelait Christiania, pour faire les installations de réception. Ce qui me donnait au fond peu de temps, vu que je ne parlais pas encore bien le norvégien, non. Je parlais le danois, et j'arrivais dans un endroit tout à fait inconnu, avec du personnel inconnu, la marchandise inconnue, tout était inconnu. Et je n'avais que 48 heures pour décider faire des réceptions tout de suite de 300-400 personnes. Ce n'était pas une petite chose.
Christiania, c'est donc Oslo
actuellement. C'est Oslo actuellement, ça a toujours rappelé. C'est après bien des années, c'est en 1912, je crois, qu'il y a un parti qui s'est fait pour apprendre le mål. Le mål, ça veut dire... c'est une sorte de patois, le norvégien, véritablement norvégien, antique.
C'est ça.
Et alors ils ont baptisé, Christiania s'est baptisé Oslo, Trondheim s'est baptisé Nidaros, Bergen, Bergen, le Spitsberg s'est appelé Svalbard, ils changeaient tout.
Très bien. Et alors le roi est arrivé et je pense que des festivités ont suivi son arrivée en Norvège et que vous avez été mêlé vous-même, par exemple, au couronnement du roi.
Ah oui, n'est-ce pas? Alors, nous avons eu tout de suite alors les réceptions, on a eu tous les légations sont arrivées, il y avait toujours des banquets, des présentations, et naturellement les militaires, ensuite c'était le banquet pour les personnes intellectuelles, les arts, les acteurs, n'est-ce pas? Il y avait de tout. Ensuite de ça, en 1906, le 22 juin devait avoir lieu le couronnement du roi à Trondheim. Couronnement du roi et de la reine. Alors, j'ai dû préparer aussi ce grand événement. Inutile que ça de vous expliquer que ça m'a pris des mois de préparation, vu que rien n'avait été fait depuis des centaines d'années. Il a fallu tout organiser, les cuisines, les salles de banquet. Et j'ai passé plusieurs semaines entières avec des commissions du Parlement pour les arrangements, les devis, etc. Quand on commence à vouloir monter quelque chose, il y a toujours des commissions et des sous-commissions, comme un peu partout.
Il y a une chose que je regrette, Monsieur Moser, c'est que vous n'ayez pas apporté avec vous le menu du couronnement.
Eh bien, le menu du couronnement, en lui-même a été, pour ainsi dire, assez simple.
Oui.
Vu la quantité d'invités, il y avait environ 800 invités, et comme c'était plus ou moins arrangé primitivement, il fallait se débrouiller comme nous avons pu. Nous avons eu, n'est-ce pas, un bon potage, naturellement consommé extraordinaire. Puis nous avons eu le poisson royal de Norvège, qui est le saumon. C'était justement à l'époque où le saumon manque pour le frayage. Et j'ai employé ce jour-là une centaine de saumons.
Comment est-ce que vous les avez préparés, ces saumons?
Eh bien, ces saumons étaient servis entiers. C'était des saumons tous dans les 10 kilos, 8 à 10 kilos, qui ont été servis entiers. J'avais, à part les cuisiniers, j'en avais une cinquantaine, les cuisiniers et cuisinières. J'ai eu à mon service 60 soldats, qui étaient à ma disposition. Inutile de vous dire, des grandes poissonnières, ça aurait rempli une chambre, il n'aurait pas eu place. Alors nous avons fait dans le jardin, tout près de la salle de fête, nous avons pris une grande tranchée. Dans ces tranchées, nous avons mis des lampes à pétrole. Et sur ces lampes à pétrole, à travers des tranchées, nous avons mis les poissonnières. Le poisson a été mis à froid le matin et il est arrivé à point d'être cuit jusqu'au soir, à 8 heures.
C'est donc à la lueur des lampes à pétrole.
À la lampe de pétrole, oui.
C'est cuit.
C'était cuit. Et j'avais des tonneaux de pétrole mis en réserve et des soldats faisaient que recharger les lampes, recharger avec le pétrole. Les autres s'occupaient de regarder que le poisson soit fait à point.
Et à part le saumon?
À part le saumon, nous avons eu des agneaux de Norvège. Nous avons en Norvège, sur les côtes de la Norvège, près de Stavanger, se trouve... Le Gulf Stream arrivant sur la côte donne une espèce de vapeur marine qui vient sur l'herbe. Et ça donne, les moutons qui sont là-bas ont un goût tout particulier comme le présalé français. C'est tout à fait le goût du présalé français. Alors nous avons pensé de donner ces gigots de moutons. Inutile de vous dire qu'il en a fallu plusieurs aussi. Nous avons dépensé près de 86 moutons ce jour. Parce qu'à part les invités, il y avait, n'est-ce pas, à nourrir tous la presse, il y avait les journalistes, les cinéastes, il y avait la musique militaire, le personnel. Ça entraîne tout de suite à passer 1000 personnes.
Et la cérémonie elle-même, naturellement, s'était déroulée où?
C'était déroulée dans la cathédrale, le matin.
À Christiania?
Non, à Trondheim.
À Trondheim.
Les Norvégiens avaient tenu l'affaire tout à fait historique. C'est pour ça que le prince Charles Danemark a pris le nom de Hakon VII. Son fils a dû changer son nom à le prince Olof de Norvège. Alors, ils ont voulu, n'est-ce pas, qu'il fasse... La tradition devait se reprendre là au fond où elle avait arrêté, dans le temps, centaines d'années en arrière. Dans ce temps-là, les rois allaient à Calèche, de Christiania jusqu'à Trondheim, qui est donc le home du trône, traduit, n'est-ce pas, et faisait le voyage en calèche. Le roi et la reine l'ont fait avec leur suite, avec des landaus, et le voyage a duré près de 14 jours, avec les relais pour les chevaux, naturellement, qui avaient été mis d'avance. C'était aussi des grandes préparations, et partout, ça a été des acclamations, naturellement, la population descendait des montagnes, tous venaient à la plaine pour voir le passage royal. Ça a été aussi des grandes préparations. Et partout, ça a été des acclamations, naturellement. La population descendait des montagnes, tous venaient à la plaine pour voir le passage royal. C'était très émouvant pour le peuple, n'est-ce pas? Et pour les royaux aussi.
Bien sûr. Et alors, immédiatement après ces cérémonies, vous avez rejoint la capitale. Vous avez rejoint...
Non, quand le couronnement était fini, nous avons eu ensuite beaucoup de délégations. Nous avons eu beaucoup de délégations de tous les pays qui étaient venus. Entre autres, il y avait le roi Georges V, qui à ce moment-là était prince de Galles. Nous avions le grand-duc Michel, qui représentait la Russie. Nous avions le prince Frédéric de Prusse, qui était le jeune frère de l'empereur d'Allemagne. Et ces personnes sont restées ensuite pour faire plus ou moins une petite, il faut dire, des petites fêtes de famille. Alors les festivités ont continué encore pendant une dizaine de jours. Il n'était pas tout à fait pour se reposer après les grands événements qui avaient eu lieu, parce que j'avais été 8 jours, pour ainsi dire, pour avoir 1 ou 2 heures de sommeil, c'est tout, par nuit.
Oui, évidemment, vous n'avez pas eu le temps de vous rendre à la cathédrale et d'assister à...
Non, le roi m'avait prié de venir le voir couronné, n'est-ce pas? Mais je ne pouvais quitter mon travail de peur qu'il arrive à Navarro ou quelque chose. n'est pas des bagatelles, n'est-ce pas? Il fallait. Et il a très bien compris à la suite, quand il m'a décoré de l'ordre du couronnement, il m'a dit, je vous le donne et j'espère que, qu'après vous vous reposerez, je vous invite de venir avec moi faire le voyage dans le nord, et vous n'aurez pas à vous occuper de la cuisine. Au contraire, je veux que vous rattrapiez des belles couleurs et que vous vous reposiez. Alors j'ai fait un voyage de 6 semaines dans le nord, j'étais avec le roi, la reine, et accompagné de Nansen, comme cicérone, pour montrer, nous expliquer tout, n'est-ce pas, lui qui connaissait. Nous avons fait le Nord-Cap, nous avons été jusqu'à Varseux, qui est dans l'extrême, près de Petchamo, là où commence la côte de Murmansk.